Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers foisonnant, celui de « Au lourd délire des lianes » de Francis Misiot. Enfin, des extraits.
Oui, un texte qui nous emmène en Guyane française, avec ses deux tribus amérindiennes inventées, les Makroka et les Vanivani.
Exactement, deux tribus rivales. Et notre idée, c'est un peu de décortiquer ce récit, de voir les thèmes, le style, les idées qu'il y a derrière. Alors, pour commencer, le résumé. L'histoire débute avec le retour d'un personnage clé, le chaman Jean-François. Ah oui, il revient de métropole, c'est ça?
C'est ça. Et là, ben, il découvre son village Makroka complètement changé et surtout beaucoup de tensions avec les Vanivani, les voisins.
Et c'est là qu'on rencontre toute une galerie de personnages assez incroyables, non? Rien que les noms.
Ah oui, chef Hervé, perroquet vert à deux crêtes et touffe rouge sous les ailes. C'est déjà une histoire en soi.
Carrément. Ou cet ethnolinguiste, Ladislas Kropka, obsédé par les mots pour dire la neige, en pleine Amazonie.
Absolument. Et Dédé Jaguar Placide, Joël Corbeau à bec mou. C'est très imagé, très truculent.
L'humour est là, direct.
Oui.
Et le récit nous fait vivre son retour, l'atterrissage un peu spécial, le trajet en bus sur la N2, la pirogue, on est dedans, quoi.
Voilà. Puis la vie au village, les ateliers de développement durable des Makroka.
Qui ont l'air assez satirique, on va dire.
Tout à fait. Et en face, le projet touristique des Vanivani, le Jungle Riverboat.
Ah oui, la caricature du tourisme de masse en jungle.
Exactement. Et n'oublions pas la quête de Kropka ou l'intervention du chaman auprès du grand Yolok.
Et cette structure narrative aussi, c'est intéressant, avec les chapitres classés par réalité, dur, douce, flou, oui, proche, métro. Ça suggère d'emblée qu'il n'y a pas une seule vérité, une seule façon de voir les choses. C'est une approche assez moderne, finalement. Ça nous amène aux thèmes abordés qui sont hyper variés. La linguistique, par exemple.
Ah oui, c'est un terrain de jeu pour l'auteur. La langue Makrokena inventée, avec ses accents toniques multiples, c'est complexe à souhait.
Et le fameux débat sur les mots pour la neige qui tourne un peu au ridicule académique.
Complètement. Jusqu'à la traduction des chants Vanivani en morse. C'est... inattendu.
Et les structures familiales, les Vanivani avec l'enfant fractionné en côtelettes.
Ben oui, cette idée des parts symboliques de l'enfant réparti. C'est une invention assez folle qui interroge la parenté, l'individu.
C'est une façon de pousser la réflexion, quoi. Et puis il y a l'écologie, le social.
Oui, abordé de front, mais toujours avec cette distance, cet humour. L'orpaillage, la pollution, la déforestation.
Le tourisme de masse, les projets de développement un peu absurdes.
C'est ça. Une critique assez claire de certains aspects de la modernité et ses impacts, en fait. Sans jamais être pontifiant.
Le rapport à l'histoire, aux légendes est aussi particulier. C'est pas figé du tout.
Non, les cosmogonies changent. Les mythes comme celui du grand Yolok évoluent. Le texte parle d'abattu de mémoire.
Et j'aime beaucoup cette expression. Comme si on défrichait et réinventait le passé en permanence.
C'est tout à fait ça. Et cette richesse, on la retrouve dans la culture, le chamanisme qui existe à côté des stages pour bobos, décrit avec beaucoup d'ironie d'ailleurs.
Oui, la gastronomie aussi, le millefeuille de mille pattes, ça marque.
Oui, et la musique, du blues Makrokena au hard rock.
Un vrai mélange qui illustre bien ce choc, cette rencontre des cultures.
Et ce qui est fort, c'est que l'écriture elle-même participe à tout ça. Les modes d'écriture sont très variés, l'humour, on en a parlé.
Omniprésent. Dans les situations, les dialogues, les noms, c'est ce qui frappe en premier.
Et cet humour, il est au service d'une vraie satire. L'administration, par exemple. L'inspecteur attributeur.
Le tourisme authentique, les disputes d'experts entre Kropska et Chandré.
Même les ONG et les militants. Personne n'est épargné. Mais c'est fait avec légèreté, presque.
Et puis, il y a le pastiche. Le texte intègre plein de formes différentes.
Des chants, des poèmes, de faux articles d'anthropologie, des proverbes, des modes d'emploi pour stages chamaniques. C'est très joueur.
Ce qui renforce le côté critique et décalé. Mais derrière tout ça, il y a des arguments de fond qui se dégagent, non?
Bien sûr. Le choc modernité-tradition, c'est évident. Une critique du progrès tel qu'il est souvent imposé, de la bureaucratie.
Et une réflexion sur l'identité culturelle. Comment elle se maintient? Comment elle se transmet, notamment via la langue.
Tout à fait. C'est complexe, c'est menacé, mais c'est vivant. Le livre s'amuse aussi à déconstruire les stéréotypes.
Ah oui, sur les Amérindiens, les métropolitains, les touristes, tout le monde y passe.
C'est ça. Et ce questionnement permanent sur la réalité et la vérité, avec les cinq réalités, les abattis de mémoire, ça montre bien le pouvoir des histoires, de la fiction.
Comment on construit notre monde avec des récits.
Exactement. Donc, pour résumer, c'est une œuvre vraiment bouillonnante, très drôle, très satirique.
Tu utilises cette fiction guyanaise un peu folle pour parler de thèmes très actuels, universels en fait.
C'est un détour très efficace.
Alors, pour finir, peut-être une question à laisser en suspens. Si ce texte joue comme ça avec des traditions inventées, des histoires qui changent, un savoir en abattis, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont nos propres cultures, bien réelles, elles, fabriquent et racontent leur identité, leur passé ?
Excellente question pour réfléchir après la lecture. Ça interroge notre propre rapport à nos histoires collectives.